Nous allons faire un petit voyage en Terre Sainte. Ça se passe il y a bien longtemps, 12 siècles avant Jésus-Christ, c'est-à-dire 33 siècles par rapport à aujourd'hui. Et pourtant, tout semble si actuel. Mais on est dans un autre pays, une autre culture, à une autre époque. Le livre de Ruth est le plus court de tout l'Ancien Testament, 80 versets. C'est une histoire qui va nous faire réfléchir à notre foi personnelle au travers de plusieurs exemples de vie. La Bible nous touche parce qu'elle parle du quotidien de personnes banales qui rencontrent les mêmes difficultés que nous, dans leur famille, leur travail, leurs difficultés financières. Ce ne sont pas des êtres parfaits, mais s'ils tombent, ils peuvent être relevés. Et à partir du moment où nous avons rencontré le Dieu vivant, nous sommes transformés et notre situation évolue. Des gens ordinaires ont une manière extraordinaire de vivre des choses ordinaires. Nous sommes après la conquête de la terre promise. À l'époque de Josué, il n'y a plus de chef national. C'est l'époque des juges. Les juges sont des personnes politiques qui vont gouverner le pays pendant un siècle et demi environ, sachant que plusieurs ont dû gouverner à la même période, mais dans des endroits différents, car il n'y avait pas d'unité nationale. Et la Bible dit un verset que l'on connaît bien, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et quand le peuple se détournait de Dieu, les peuples voisins envahissaient Israël, faisaient des razzias, et quand le peuple criait à Dieu, il envoyait un juge qui rétablissait la situation. Les histoires de ces juges sont des héros connus, pas toujours très glorieux, parce qu'il y a des récits de violence, d'atrocités, de mœurs légères, et je pense à Samson, un sacré coureur de jupons, qui mourra quand même un héros, puisqu'en un seul jour, il va tuer plus de Philistins qu'il n'a tué dans toute sa vie. Et pourtant, dans ce temps de ténèbres spirituelles, il y a des personnes humbles qui vivent pieusement leur foi en Dieu. Les champs de bataille cèdent la place aux champs cultivés et au rythme paisible de la vie à la campagne. Nous allons donc faire un petit voyage à Bethléem et parcourir le livre de Ruth. Dans notre vie chrétienne, on peut rencontrer des personnes qui sont des modèles par leur attitude. Le livre de Ruth nous enseigne par l'exemple, nous remet en question, nous bouscule dans nos pensées bien raisonnables. Si on pouvait donner un titre au livre de Ruth, je dirais du vide à l'abondance. En tout cas, c'est une histoire qui commence mal, et je vais lire les versets 1 à 5. Au jour où les juges gouvernaient, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner en émigré au pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratites de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent au pays de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, le mari de Noémie, mourut, et elle resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent des Moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi, tous les deux, et la femme resta seule, privée de ses deux enfants et de son mari. En 5 versets, nous avons la description d'un drame de plusieurs années. Une famine, un déplacement, un mort, puis 2 morts, tous 3 de la même famille. Et il y a beaucoup de pudeur devant la douleur de la mort. 5 petits versets qui ne s'étalent pas sur les détails. Le résultat, 3 veuves sans enfants et il ne reste plus que des femmes. La famine entraîne toujours des incertitudes, des angoisses, des insécurités, des abus. Et l'installation en terre étrangère est toujours un problème. Il faut du temps pour se faire accepter. Le déracinement teste notre maturité, notre capacité d'adaptation. Donc c'est l'histoire d'un homme qui part de sa terre natale avec sa femme et ses deux fils à cause de la famine. Il partit. La difficulté, la frustration, la faim l'amènent à partir quelque part où il n'aurait pas dû aller. Il est parti dans une bonne intention, subvenir aux besoins de sa famille. Et aujourd'hui, un homme responsable ferait peut-être pareil. Comment réagirions-nous si nos enfants avaient faim? Et ils font tous les 4 un voyage après de près de 90 km. De la montagne, Bethléem est à 800 mètres d'altitude, ils vont descendre dans la plaine fertile de Moab, à l'est de la mer Morte. Il n'y a aucune parole de jugement dans ces versets. Et ce qui résonne dans tout ça, c'est le vide de l'absence. La famine, c'est le ventre vide. Élimélec et sa famille partent pour un séjour, mais ils vont s'y établir, et c'est le drame. Pris par l'ambiance du lieu, Élimélec y construit sa résidence secondaire, qui devient sa résidence principale. Et lui qui avait pensé trouver un épanouissement plus grand, il meurt en terre étrangère. Élimélec signifie Dieu est mon roi. Cet homme a fait courir de gros risques à sa famille en s'installant dans un pays ennemi au milieu de gens idolâtres. En effet, Moab est le fruit d'une relation incestueuse entre Lot et sa fille. Et au moment de l'Exode, le roi de Moab a engagé le prophète Balaam pour maudire Israël. Mais ce sont des paroles de bénédiction qui sont sorties de sa bouche. Et lorsqu'en Deutéronome 23, Israël a demandé des vivres dont ils avaient besoin dans le désert, Moab les lui a refusés. Et Dieu a refusé la vengeance. Pour les Juifs, Moab est une terre quasi maudite, car elle représente la perversion. À l'époque des juges, Israël a été envahi par Moab, mais un juge a réussi à repousser l'ennemi. Comme les autres peuples voisins, Moab avait un dieu national à qui on offrait des sacrifices, et même une ribambelle d'autres dieux. La pratique de la prostitution sacrée était normale. En attendant, les Moabites n'avaient pas le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel. C'est le Deutéronome 23 qui nous le dit. Et Esdras et Néhémie ont des paroles d'interdiction formelle d'épouser des femmes étrangères, notamment des Moabites. Alors, qu'est-ce qui pourrait sortir de bon de Moab? La cerise sur le gâteau, c'est que les deux fils épousent des femmes Moabites. Et 10 ans vont s'écouler. Silence total sur cette longue période. Bethléem, c'est la maison du pain. C'est aussi la ville de David où Rachel est née. La ville où naîtra Jésus. Et l'ironie de cette histoire, c'est qu'il y a une famine à Bethléem, la maison du pain. Un endroit où il y avait même une certaine prospérité. Mais même dans la maison du pain, il peut y avoir des famines. Quand Dieu m'aide, c'est facile de s'appeler Élimélec et d'habiter à Bethléem, là où Dieu me veut. Et quand tout à coup je ne suis pas comblée comme je le pensais, alors je découvre ma misère. Lui et sa famille se trouvent dans l'épreuve, c'est la famine. Et c'est une erreur de penser que si Dieu est mon roi, il va éliminer automatiquement toutes les famines de ma vie. Le chrétien passe par des difficultés, des temps de crise. Ça peut être le deuil, la santé, le chômage, le rejet, etc. Et aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui ont faim d'amour, d'amitié, de tendresse, de chaleur, et qui vivent dans une sécheresse, un désert. Il y en a qui souffrent réellement de la famine. Et il y a des gens terriblement seuls dans l'église. Seuls dans la détresse morale, dans la solitude chez eux le dimanche. Seuls spirituellement. Et en apparence, mais c'est comme si Dieu était loin. Et la flamme du premier amour de la conversion est un lointain souvenir. Il y a donc des personnes qui vivent un vide profond, bien qu'étant chrétienne. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette histoire finira bien. Et ce que Dieu voudrait, c'est que les histoires qui ont mal commencé finissent bien. Combien de vies ont été marquées quelquefois avant la naissance par le désamour ou le déchirement? Dans la pensée grecque, d'ailleurs, les histoires se terminent toujours mal. Ce sont les tragédies. Mais dans la pensée de Dieu, ça finit bien. Et même l'Apocalypse, qui est le livre de la fin du monde, finit bien. C'est un monde nouveau que Dieu prépare. Et le dernier mot est un monde d'espérance. Je fais toutes choses nouvelles. Et j'offre la possibilité de nouveaux départs, même à ceux jusqu'à présent qui ont choisi des chemins de mort. Élimélec a fait un choix de mort, mais à son insu, dans le respect total de sa libre décision, le plan de Dieu s'est accompli. Donc, au verset 3, le mari meurt. Et ça, c'est encore un vide plus douloureux que la fin. Nous chantons facilement « Oui, prends tout, Seigneur ». Mais quand Dieu nous dépouille de quelque chose que nous aimons, nous respectons. Des chrétiens souffrent, s'éloignent des frères et sœurs, et le monde les aspire. Que pouvons-nous faire pour les aider dans des circonstances douloureuses à proclamer que Dieu est leur roi? Combien sont morts en terre étrangère? Au verset 5, les deux fils meurent, et le vide dans la vie de Noémie se creuse encore plus. Et on se demande d'ailleurs comment elle a pu tenir le coup, cette pauvre femme, après ces épreuves successives. 3 morts, c'est vraiment un coup dur. Comment va-t-elle s'en relever? Elle reste toujours dans le pays de Moab. Et la mort de son mari ne va pas la ramener auprès de la maison du père. Elle est attachée. Les deux femmes moabites n'ont pas eu d'enfants. Leur ventre est resté vide. 10 ans de mariage. Encore un coup de malheur. Noémie est immigrée, sans descendance, sans revenus, sans protection sociale. L'avenir semble bouché. Et dans cette douleur, c'est le vide complet. L'anéantissement de toute une vie. Et ce qui va la faire revenir, ce n'est pas d'avoir perdu son époux et ses fils, mais c'est qu'elle apprend que dans la maison du pain, à Bethléem, Dieu a redonné du pain. Souvenez-vous, les 10 plaies d'Égypte. Les peuples voisins d'Israël ont toujours su quand Dieu était intervenu pour son peuple. Les miracles de l'époque se sont racontés au-delà des frontières. Pas de radio, pas de moyens de communication modernes. Noémie n'entend pas dire « Tiens, les récoltes sont bonnes en Juda ». Mais elle entend dire « Dieu est intervenu en faveur de son peuple ». Donc Dieu peut parler même au travers les gens du monde. Et la démarche de Noémie est de sortir de la fatalité. Donc elle se lève et part. Comme elle, il ne faut pas rester figé, prostré dans le malheur. Entreprendre, reprendre la route, continuer, recommencer. C'est la philosophie de vie de Noémie, une femme de décision. Alors petit point, lorsque Dieu intervient, ça se sait. Est-ce que les gens de mon entourage voient que Dieu me bénit? Depuis combien de temps avons-nous le sentiment que Dieu n'est plus intervenu dans notre vie? L'obéissance a aussi des conséquences positives et Noémie prend la bonne décision. Quand elle se lève, elle se met en route avec ses 2 belles filles. Et Jésus offre la possibilité à ceux qui sont descendus sur des chemins de désobéissance de revenir. Mais il offre aussi à ceux qui sont en terre étrangère de revenir. Le pain n'est pas seulement pour les rétrogrades, il est aussi pour les païens. Bethléem est une ville bien connue. Jésus est né à Bethléem et il se décrira comme le pain de vie en Jean 6. En Jésus, on peut trouver le pain qui nourrit le plus profond de la personne. Il y a la possibilité de recommencer, de retourner à la source si je m'en suis éloignée. Une seule chose reste à Noémie, l'affection de ses belles filles. Alors attention au commérage sur les belles mères, parce que Noémie les considère comme ses propres filles, d'où cet amour. Et Noémie fait un bout de chemin avec elles, peut-être pour les rapprocher de leur mère. Et Noémie se prépare à repartir en Juda, et elle leur souhaite de se remarier à Moab, parce que le mariage, c'est synonyme de bonheur, de sécurité. Elle ne fait pas de chantage affectif, mais elle les place devant leurs responsabilités et elle les bénit, quoi qu'il arrive. Les filles sont prévenues. Pas de bon mariage pour elle en Juda. C'est un exemple de désintéressement médité. Être attaché sentimentalement à quelqu'un en tant que chrétien, ça ne suffit pas toujours pour prendre la bonne décision. Et Dieu respecte toujours notre liberté. Il n'exerce aucune pression. C'est la différence entre la foi et la religion. Mais même en terre étrangère, il est resté chez Noémie une empreinte de Dieu, au point que ses 2 belles filles avaient envie de rester avec elle. Elles ont senti que derrière la belle-mère, il y avait quelque chose de plus. Dieu n'abandonne pas les siens si vite. La parole dit, il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu veut qu'il revienne à Bethléem. Il y a quelque chose de cette chaleur, cet amour que seul Dieu peut mettre dans un cœur. Et les 2 filles sanglotent. Ce qui les attire, c'est le peuple de Dieu. Au verset 10, il est noté « Non, nous retournerons avec toi vers ton peuple, vers ton peuple. » Mais malheur à celui qui se met en route à cause du peuple de Dieu parce qu'il va être surpris. Il suffit de lire les épîtres aux Corinthiens pour en être convaincu. Vu de l'extérieur, l'image est merveilleuse, mais vu de plus près, et on voit que chez les premiers chrétiens, il y a bien eu des tentations, des divisions, des désobéissances. Donc il ne faut pas rêver l'Église, il ne faut pas rêver le peuple de Dieu. Est-ce que nous avons, nous, dans l'Église, le courage de montrer la vraie image de nous, l'inverse du décor? Noémie est animée par l'esprit de vérité, d'authenticité, parce que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et elle leur dit, ne vous faites pas d'illusions, même si je me remarie et que j'ai d'autres fils, le temps qu'ils grandissent, ça serait trop tard pour vous. Vous resterez vides, sans mari, sans enfants. Allez, vous êtes jeunes, repartez chez votre mère et refaites votre vie. Noémie n'est pas égoïste, elle voit loin. Et c'est pas parce qu'elle a vu une avalanche de catastrophes qu'elle va bloquer ses belles filles. Et c'est pas parce qu'on est bloqué dans la vie qu'on va bloquer les autres. On peut pleurer et pencher notre cœur devant Dieu, mais on peut toujours encourager les autres, les bénir et voir au-delà de nous-mêmes. Orpah s'en va. À partir du verset 14, le thème du retour est important. Ce mot va être employé 12 fois dans ce passage. 6 fois pour le retour en Juda et 6 fois pour le retour à Moab. Et lorsque les prophètes parlent de retour, ils parlent de conversion. Ruth est sur le chemin de sa propre conversion. Et nous avons besoin d'apprendre à reconnaître la voix du Père. Par Ruth, nous entrons plus profondément à l'écoute de celui qui nous aime. Et voici ce qu'elle dit à sa belle-mère. Ne me pousse pas à t'abandonner, à me détourner de toi. Où tu iras, j'irai. Là où tu passeras la nuit, je passerai la nuit. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et c'est là que je serai enseveli. Que le Seigneur me fasse ceci et qu'il y ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, n'insista plus. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur arrivée à Bethléem. La décision de Ruth va transformer sa vie. Elle s'engage par la foi, sans savoir où elle ira, comme l'a fait Abraham. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est l'abandon des idoles de son pays natal. Elle a calculé la dépense. Dieu a vu son cœur et va la récompenser, car Dieu honore ce qu'il honore. Dieu est le Dieu du recommencement. Les versets 16 à 18 que j'ai lus sont le point central de cette histoire. Cette décision entre dans l'histoire. Ruth décide de rester avec Noémie. Et c'est étonnant comme Noémie parle à ses belles filles. Retournez vers vos dieux. Elle fait de l'anti-évangélisation et elle rend Ruth attentive au sérieux de l'engagement avec Dieu. Et Ruth s'engage dans une loyauté nationale. Elle appelle même la punition du Seigneur sur elle si elle ne tient pas sa promesse de fidélité. Et elle insiste. C'est là que je serai enterrée. Elle renonce à l'habitude d'être enterrée dans sa terre natale. Et elle confirme sa fidélité à Noémie en faisant un serment et en prononçant une auto-malédiction. Pour Ruth, la conversion a été un chemin de conversion. Elle se rend de plus en plus compte du sérieux et prête à se décider pour le Dieu d'Israël. Et pour nous, et toujours à nouveau, nous pouvons marcher avec Dieu, ne pas s'arrêter en chemin, ne pas se reposer sur le passé. C'est quelque chose d'essentiel que la foi soit choisie librement et sans contrainte. À un moment donné, dans la lucidité, en connaissance de cause, j'ai choisi Jésus-Christ. Et c'est une libération qui se fait lorsque nous sommes réellement décidés. À ce moment, le Seigneur peut vraiment nous bénir. Dieu veut des gens décidés, des gens qui ont réellement choisi de le suivre, quoi qu'il arrive. Si Ruth a été un instrument entre les mains de Dieu, c'est parce qu'un jour elle a fait un choix. C'est tout un chemin. De même, tant que Jacob a lutté avec l'ange, Dieu ne pouvait pas le bénir. Mais Jacob lutte jusqu'au matin. Et il ne le laisse pas jusqu'à ce qu'il fasse jour dans sa vie. Et quand il s'accroche, comme Ruth s'accroche à Noémie, alors Dieu le bénit et il deviendra un père en Israël. Et quand on dit à Dieu, ton peuple sera mon peuple, où tu mourras, je mourrai, c'est le bon moment. Elles marchent ensemble en direction de Bethléem. Souvenez-vous, c'est une marche de plusieurs jours. Et là, il va falloir remonter la montagne. Elles sont ensemble. Et nous avons besoin d'être à l'écoute de ce mot ensemble, parce qu'elles étaient très différentes. L'une âgée, israélite, belle-mère. L'autre jeune, moabite, belle-fille. Et pourtant, Dieu va les réunir. Dieu veut des chrétiens qui marchent ensemble. Là aussi, il y a du chemin à faire. Est-ce que nous marchons ensemble? Paul dira, vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Et Jésus disait, à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Est-ce que nous nous sommes mis en route vers le retour de Jésus? Qui parle encore aujourd'hui du retour du Seigneur? Le Saint-Esprit travaille aujourd'hui dans toutes les églises. Et partout, il y a des hommes et des femmes qui se lèvent. Dieu veut réunir ses enfants. La Moabite n'est pas semblable à l'Israélite Noémie. Dieu ne dit pas « soyez des robots identiques », mais « soyez un, comme le Père et moi sommes un, dans un lien d'amour ». Il y a eu un réveil à Bethléem. Le peuple a été visité par Dieu. Noémie n'est pas accueillie comme une rétrograde, sans leçon de morale. Et Ruth, en tant que Moabite, n'est pas rejetée. Il est dit au verset 19 qu'à Bethléem, Ruth la Moabite et Noémie sont accueillies avec émotion. Et quelqu'un disait qu'il y a quelquefois dans les bistrots plus de chaleur que dans l'église. Tout ça pour dire, mais comment est-ce qu'on accueille les gens qui reviennent à l'église, qui sont partis un petit temps dans le monde? Savons-nous, comme le Père, ouvrir les bras et embrasser les fils prodigues avant qu'ils aient terminé leur confession des péchés? On ne pose pas de questions à Ruth, ni à Noémie d'ailleurs, mais on les accueille avec émotion, avec grande joie. Et peut-être que si tout avait été normal, on les aurait invités de maison à maison. Le retour de Noémie aurait donné lieu à beaucoup de réjouissances. Mais Noémie est affligée. Elle est veuve, elle a perdu ses fils. Elle est plutôt affligée qu'amère. C'est un jeu de mots en hébreu qu'on ne peut pas rendre en français. En tout cas, elle n'est pas révoltée. Elle est partie avec un mari et deux fils. Elle revient vide, pauvre, sans protecteur. Mais elle dit ne m'appeler plus heureuse. Elle est éteinte. Comment le serait dans les mêmes circonstances, nous-mêmes? Et au verset 21, elle dit « J'ai été partie comblée, j'étais dans l'abondance. Il y avait des richesses à Bethléem, mais Noémie ne les avait pas vues. » Et souvent, on ne se rend pas compte de ce qu'on a, des bienfaits de Dieu. Mais c'est quand on les perd qu'on commence à les découvrir. Et Dieu est prêt à nous les rendre. Le Seigneur les ramène les mêmes vides. Et elle réalise que derrière ce retour, il y a l'amour du Père. Dieu les ramène quand elles ont les mains vides. Et souvent, Dieu ne peut pas nous ramener parce que nous avons trop de choses dans les mains. Qu'est-ce que nous avons dans les mains encore qui nous empêche de recevoir plus? Si nous voulons planifier notre vie sans demander à Dieu ce qu'il pense, il se peut que nous trouvions vite vide et bien déçus. Et dans le chapitre 1, le vide, c'était vraiment le thème qui planait sur la vie de ces deux femmes, un peu comme une malédiction, une série noire. Il y a 7 gros vides dans ce chapitre. Et vous savez que dans la Bible, le chiffre 7, c'est le symbole de la totalité. Il y a d'abord la faim, un mari meurt, un fils meurt, puis le deuxième meurt, les belles filles sont stériles, Noémie n'aura plus d'enfants, elle revient à Bethléem vide. Elles ont touché le fond, ces trois femmes. Mais elles arrivent au commencement de la moisson des orges, en avril-mai environ. La moisson, c'est l'image de l'abondance, de la richesse que Dieu est prêt à mettre dans nos mains. D'ailleurs, Apocalypse 3 dira « J'ai des richesses éprouvées par le feu ». Jésus dira aussi qu'il est venu pour donner la vie en abondance. Et à partir de ce chapitre 2, le thème de l'abondance sera abordé 7 fois, une abondance totale que nous verrons au fur et à mesure. Donc dans le chapitre 2, le verbe glaner va revenir 12 fois. Pauvres, Ruth et Noémie arrivent à Bethléem au temps de la moisson des orges. Pour subsister, il faut qu'elles agissent. Leur survie dépend de la glane de Ruth, qui va rendre officielle et publique sa situation de veuve et d'étrangère. Selon le Lévitique 19, en Israël, les épis, les fruits, les raisins et les olives oubliées dans les champs et sur les arbres après la récolte sont le droit des pauvres. Par cette loi, Dieu a non seulement le souci du pauvre, mais il invite aussi à ne pas oublier la charité, ni l'origine de la richesse, car Dieu est le vrai propriétaire, et l'homme est le gérant de la terre. C'était l'ordre donné dans le jardin d'Éden. À l'époque de Ruth, les pauvres ne pouvaient ramasser les restes de la moisson qu'avec l'autorisation du propriétaire. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle ira glaner là où elle aura trouvé grâce. Elle en est réduite à faire l'aumône, à vivre de la charité. C'est qu'une pauvre étrangère non intégrée, non reconnue, ni protégée par la loi. En plus, elle est veuve, une catégorie aussi protégée par la loi de Dieu. Ruth appartient à la triple catégorie, veuve, pauvre, étrangère. C'est au travail que Dieu va la rejoindre, et c'est au travail que Boaz va la découvrir. Certains attendent l'appel de Dieu à ne rien faire. Avant de moissonner, n'ayons pas peur de glaner. Peut-être que certains ne sont jamais utilisés parce que Dieu est là, ils ne sont pas sur le champ où Dieu les veut. Et tous les jours, Dieu va dans son champ, mais il ne me voit pas et il ne peut pas m'engager. C'est en acceptant une tâche humble que Ruth va entrer dans le plan de Dieu et va en faire un instrument au service de Dieu. Qui est cet homme qu'on appelle Boaz? Josué 6, verset 25, nous parle d'une histoire qu'on connaît tous. C'est l'histoire de Rahab, la prostituée, qui a caché les espions lorsqu'il repérait les lieux avant la prise de Jéricho. Du coup, elle et sa famille ont été épargnées et ils ont même intégré le peuple de Dieu. Rahab a fondé une famille, elle a eu une vie nouvelle, propre, elle a eu un fils et c'est ce Boaz que nous rencontrons ici. Et on le sait parce qu'il est mentionné ici dans la généalogie de Jésus à côté de sa mère Rahab. Dieu pardonne nos fautes. Il les jette au fond de la mer et il met le panneau « pêche interdite ». Nous devons éviter de ratisser le fond des mers, car la pêche intensive est destructrice. Et je prends un exemple concret. Par exemple, le fait d'être divorcé, ça reste un boulet dans certains milieux pour servir le Seigneur. Mais Dieu n'agit pas comme ça. Boaz est présenté comme un homme fort, riche, puissant, considéré. Et les mêmes termes qui le qualifient sont ceux qui décrivent deux autres juges, Gédéon et Jephté. Boaz fait partie du peuple élu grâce au choix que sa mère a fait par le passé. Il ne reste aucune trace des pratiques passées de sa mère avant sa conversion. C'est un homme respecté. Par hasard, elle arriva dans le champ de Boaz. Dieu peut se servir de choses très banales pour nous rejoindre et nous bénir. Et ce n'est pas forcément par des voies surnaturelles que Dieu agit. Ruth veut éviter à sa belle-mère un travail dur et humiliant. Elle choisit de reprendre ce travail. L'histoire se passe donc sur le lieu du travail. Et Dieu voudrait que notre vie chrétienne ne se vive pas que dans l'église, mais que notre vie spirituelle se trouve sur le terrain, au quotidien, sans masque. Le Saint-Esprit va nous faire entrer dans la vérité, dans l'authenticité. Boaz était un homme de Dieu sur le terrain avec ses ouvriers, pas seulement le samedi au milieu des personnes religieuses. Et il accueille Ruth avec beaucoup de gentillesse, d'affection, bien qu'elle soit étrangère. Au verset 5, il la voit. Dieu nous voit, quelle que soit la tâche que nous accomplissons. À l'époque, une femme appartient obligatoirement à quelqu'un. Père, mari, maître. Mais elle n'appartient à personne. Ce n'est qu'une moabite. Et elle est qualifiée par son origine. Et Ruth travaille non-stop. Du matin jusqu'à présent, elle est restée debout, est-il mentionné. Juste pour boire. Et peut-être la pause pipi. Son attitude nous interpelle à nouveau sur notre propre témoignage au travail. Quand les autres nous voient au travail, qu'est-ce qu'ils pensent ? Est-ce que les autres remarquent aussi notre sérieux dans notre esprit de travail ? Ce qui doit frapper les autres, c'est que nous ne négligeons pas notre travail. Et c'est dans notre sérieux que l'on montre si Jésus est en nous. Avant d'être moissonneur, il faut être un bon glaneur pour toutes les personnes qui nous voient vivre. Ruth parle à Boaz et Noémie va avoir une parole de bienveillance. Écoute mon conseil. Si Ruth avait quitté le champ de Boaz, elle serait passée à côté de beaucoup de bénédictions. Comme les chrétiens qui ne sont pas où Dieu les voudrait. Quand le travail devient difficile, on arrive toujours à trouver une porte de sortie. Ne va pas glaner dans un autre champ. Et Boaz lui dira, j'ai interdit de te toucher. Et là, il manifeste sa protection. À partir de ce verset 9, le thème de la protection sera abordé 12 fois jusqu'à la fin du livre. Jésus s'adresse aussi à une étrangère quand il parle à la femme samaritaine. Il propose de l'eau, une eau qui peut donner la force d'aimer ce qui nous dérange de glaner quand nous sommes fatigués. Noémie et Ruth étaient vides à Moab. Elles ont pris un chemin qui leur a montré que Dieu est le Dieu du recommencement. Et elles ont vu une lueur. Elles ont été accueillies. Et maintenant, elles vont pouvoir manger. Mais Dieu veut les amener encore plus loin. Et si on a connu ce vide, cette douleur qui nous laisse penser qu'il n'y a plus rien de bon pour nous, qu'on est seul, eh bien on peut se souvenir du livre de Ruth, on peut le méditer et être assuré que Dieu veut nous amener dans la plénitude de son amour. Et à partir de ce verset 9, donc on voit que Dieu est un Dieu de plénitude. Quand on prend conscience qu'on s'engage sur un nouveau chemin, dans son amour, Dieu est capable de nous faire retrouver sa présence et nous remettre là où nous devions être pour être utiles dans son royaume. Dieu continue d'aimer son peuple et Dieu voudrait nous rejoindre. Il est là pour nous aider à retrouver les choses essentielles. Dieu veut guérir des domaines de notre vie. Et c'est un merveilleux chemin de guérison. Parce que nous, chrétiens, nous sommes en convalescence. Nous avons été opérés. Les inconvertis, eux, sont sur un chemin de mort. Remarquons dans l'histoire la façon naturelle dont les choses se passent. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de coup de tonnerre. Ruth a des bras solides et elle va travailler. Ce qui a l'air d'un hasard est en réalité l'œuvre de Dieu. Dieu conduit Ruth dans le bon champ. Puis il conduit Boaz à passer par là et il est plus généreux que le commandait la loi. Ce n'est pas elle qui va puiser de l'eau, mais elle boira ce que les serviteurs auront puisé, elle, l'étrangère du pays maudit. Et Boaz explique sa bienveillance par le fait qu'il est impressionné par cette femme, par son courage et par son renoncement. Il a remarqué qu'elle a tout laissé pour rester avec Noémie. Il introduit Ruth dans la communauté et demande que Dieu trouve le moyen de la récompenser. Il est un instrument de la grâce de Dieu à l'égard de celle qui avait dit « Ton Dieu sera mon Dieu ». Le mot « récompense » est lié à la paix. C'est une façon de parler d'abondance. Ruth est bouleversée. Elle se prosterne. Et ce sont ces gens-là que Dieu peut bénir. Elle n'a pas d'esprit revendicateur. Humilité, simplicité, voilà comment elle est Ruth. Elle est consciente que c'est une grâce et que Dieu ne lui doit rien. C'est par amour et par grâce que Dieu nous fait du bien et nous bénit. Et notre attitude doit rester cet émerveillement de Ruth devant la grâce et l'amour de Dieu. Ne croyons pas ce que nous faisons n'est pas d'importance, car c'est ce qu'elle a fait pour sa belle-mère qui a touché Boaz. Et c'est étonnant d'ailleurs qu'il soit informé de ce qu'elle a fait. Donc, le monde qui nous entoure nous observe. Que faisons-nous? Comment nous comportons-nous? C'est sur le terrain que le monde nous attend, le terrain de la famille ou du travail. Être différent dans notre comportement à l'égard des proches. Il faut que nos proches le voient, pas des paroles, mais des actes concrets. Ruth a eu un comportement d'amour à l'égard de sa belle-mère, parce que la nouvelle naissance transforme mon caractère. Elle a abandonné son père, sa mère, son pays, pour sa belle-mère et un peuple qu'elle ne connaissait pas. Et ça nous rappelle un verset bien connu, « Celui qui quitte son père, son pays, etc. retrouvera au centuple. » Boaz réalise que Ruth est vraiment venue se réfugier sous les ailes de Dieu. Elle est venue chercher un abri auprès de Dieu. Et moi, où est-ce que je cherche refuge? Dans le travail? Pour essayer de sortir de mes difficultés, de mes luttes? Et Ruth parle de consolation, verset 13. « Tu m'as consolé, moi, ta servante. Tu as parlé à mon cœur. » Alors que je ne suis pas même comme l'une de tes servantes. Dans la Bible, quand Dieu parle au cœur, il parle avec amour dans le sens de restaurer, de guérir d'une blessure, de redonner la vie. Elle avait l'air forte et déterminée, mais elle avoue indirectement qu'elle avait besoin de cette consolation, de ce signe de retour à la vie. Et Boaz lui redonne espoir dans l'avenir. Et ça aussi, c'est très beau, le Saint-Esprit nous métamorphose, il nous transforme à l'image de Christ. Dans toutes les personnes de l'Ancien Testament, il y a toujours une ressemblance très concrète avec Jésus. Ici, c'est dans la personne de Boaz. Son amour, son accueil, sa gentillesse pour une étrangère, tous ces traits rappellent Jésus. Le monde a besoin de voir quelque chose de la réalité de Jésus, de la part de ceux qui portent son nom. Un jour, une petite fille visitait une cathédrale avec ses parents et tout le monde admirait les beaux vitraux qui représentait des scènes de la vie chrétienne dans la Bible. Et cette petite fille a posé une question. Qu'est-ce que c'est un chrétien? Alors ses parents ont cherché les explications. Ils ont dit quelque chose. Et la petite fille s'est exclamée. Je sais, un chrétien c'est quelqu'un à travers qui on voit la lumière. Le monde a besoin de voir Jésus dans notre vie. Parce que la seule Bible que les gens lisent aujourd'hui, c'est la vie des chrétiens. Dans la vie de Boaz et de Ruth, il y a quelque chose de la réalité de ce Dieu d'amour, de ce Dieu qui console. Et dans Boaz, on peut voir le Saint-Esprit, le Consolateur. Boaz va protéger Ruth, et la vie de cette femme va être fructueuse. À partir du verset 14, donc, un Dieu d'abondance. Les choses vont réellement changer à partir de ce moment, prendre une tournure plus positive. Ruth est invitée à partager le repas des moissonneurs, et les liens vont s'installer dans la durée. Dieu, Boaz ne veut pas seulement donner à Ruth du grain rôti, c'est-à-dire le meilleur. Il va plus tard se donner lui-même. Les bénédictions de Dieu sont merveilleuses, mais Dieu veut nous donner bien plus. Il se donne lui-même. Et c'est la communion avec Dieu qui est plus importante. Alors n'ayons pas peur de faire confiance à Dieu. À 20, Ruth s'épanouit, mais sa vie ne porte pas de fruits. Et quand elle va se mettre sous la protection de Dieu en restant près de Boaz, sa vie va devenir fructueuse. Il est dit qu'elle garda le reste. Auprès de Dieu, il y a toujours des restes. Rappelez-vous la multiplication des pains ou la pêche miraculeuse. Dieu ne se trompe pas dans les quantités. Il aime être généreux parce qu'il est un Dieu d'abondance. Et d'ailleurs, Dieu dira à Josué, « Prends tout le pays, pas seulement quelques hectares, prends tout le pays. » Et Ruth va se rassasier. Est-ce que nous sommes rassasiés? Boaz donne au moissonneur l'ordre de la laisser glaner, sans parole blessante ou désobligeante. Femme seule, au milieu de tous ses ouvriers, elle est sa protégée. Elle se remet au travail et Boaz donne même des ordres pour qu'on lui facilite le travail. Et il montre encore sa protection. Ça me rappelle Marie, qui n'a pas eu peur d'aller à Jésus pour une histoire de vin, souvenez-vous en Jean chapitre 2. C'était le premier miracle, 600 litres de vin. Dieu ne nous fait aucun reproche si nous sommes gourmands des richesses de Dieu. Et d'ailleurs, la récolte de Ruth est exceptionnelle. Plus de 20 kilos après un travail éprouvant. C'est l'abondance. Ruth n'est pas une feignante et elle prend même le temps de battre ce qu'elle a glané. Et elle met de côté une part de repas pour Noémie. Si nous rapportions quelque chose de concret, Ruth a rapporté à sa belle-mère ce qu'elle avait glané. Et les autres doivent voir aussi que ma coupe déborde. Et Ruth peut témoigner. Ça me fait penser à une histoire, tout le monde connaît Michel-Ange, cet artiste avait fondé une petite école et ses élèves peignaient. Et quelquefois, le soir, dans la nuit, il faisait des retouches, il passait. Et au matin, l'élève remarquait et disait « Ah, le maître est passé ». Quand on rentre d'une convention, les autres doivent remarquer qu'il y a quelque chose de différent. Il faut rapporter quelque chose aux autres. Prendre des restes dans nos poches pour que les autres le voient et disent « C'est passé quelque chose pour elle, pour lui. » On ne va pas à un rassemblement, une convention, un séminaire juste pour que Dieu nous bénisse nous égoïstement, mais pour redistribuer aux autres et les autres doivent le remarquer. Et il y a aussi chez Noémie tout un cheminement qui se fait. Noémie, au verset 20, dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni du Seigneur qui n'abandonne pas sa fidélité envers les vivants et les morts. » Donc en voyant ce que le Seigneur a fait pour sa belle-fille et en retrouvant petit à petit Dieu, sa manière de parler change. Elle a vécu une guérison intérieure. « Mon mari et mes filles sont morts, mais derrière tout ça, il y avait l'amour de Dieu. » Elle voit la bienveillance, la bonté, la fidélité, la loyauté de Dieu. Il tient ses promesses. C'est le cri d'espérance de Noémie. Elle reconnaît l'intervention de Dieu, ne l'a pas abandonnée. Et c'est le même message dans le Nouveau Testament. C'est bien d'être venu dans mon champ, d'avoir mangé mon pain, mais il faut demeurer en moi. Et nous devons demeurer en Christ. Dieu nous veut avec les siennes à la moisson. Même si je ne fais pas partie des moissonneurs, il faut que je glane. Alors soyons d'humbles serviteurs. Noémie donne un bon conseil. Reste dans le champ de Boaz pour ne pas être maltraitée, ma fille. Elle a un ton affectueux. C'est un de nos protecteurs. Et Ruth répondra, il m'a dit de m'attacher à ses serviteurs. Donc elle montre la protection. Et c'est le début d'une belle fin qui s'annonce. La moisson est finie. Ruth n'aura plus rien à glaner. Les deux femmes vont rester à la maison pour consommer le stock. Ruth a travaillé dans la moisson des orges. L'orge, c'était le blé des pauvres qu'on donnait à manger aux animaux. Et puis, elle a continué dans la moisson des blés, c'est-à-dire les riches. D'avril à juin, 3 mois environ, elle a commencé en bas, vous voyez, avec l'orge, et puis elle a fini avec le blé. Noémie veut trouver une solution d'avenir pour Ruth. Elle considère qu'elles ne peuvent pas vivre indéfiniment ensemble. Noémie n'est pas égoïste. Et elle se préoccupe de la sécurité de Ruth et de la nécessité qu'elle ait un avenir assuré. L'homme ne vivra pas de pain seulement. L'homme a besoin de pain. Et le monde d'aujourd'hui a du pain en abondance. Mais il lui manque quelque chose. Le Saint-Esprit doit nous ouvrir les oreilles. Ruth et Noémie sont cherchées par l'amour de Dieu en terre étrangère. C'est tout un cheminement qui va les amener à l'essentiel. elle retrouve le peuple de Dieu, les bénédictions de Dieu et celui qui bénit, c'est-à-dire le Seigneur lui-même. Au chapitre 3, Noémie, sa belle-mère, lui dit « Ma fille, ne dois-je pas te chercher un lieu de repos pour que tu sois heureuse ? Je voudrais assurer ton repos. » C'est une situation de sécurité et de tranquillité à laquelle on accède par le mariage. Mais il y a des stress religieux, il y a tellement de chrétiens stressés, et quelquefois on croit que c'est ça le signe de la sanctification. C'est à une travailleuse que Dieu dit cela. L'Épître aux Hébreux nous dira « Efforcez-vous d'entrer dans le repos de Dieu ». Alors comment reconnaît-on le repos de Dieu ? Imaginez une brebis en train de brouter, et tout à coup, le loup arrive. La brebis regarde le bâton du berger et continue de brouter. Ça, c'est le repos. Son souci, c'est le bon berger, pas le loup. Dieu nous dit « Je suis ton bouclier ». Donc le bâton, ce n'est pas le bâton pour donner des coups. C'est pour empêcher que le loup s'approche de moi et ne me dévore. Et si je veux être pleinement heureux, je dois entrer dans le repos de Dieu. Bossuet a dit « L'homme est fait pour être heureux » et Jésus est venu lui en apporter les moyens. Être heureux, ça ne signifie pas satisfait de tous nos rêves. On peut être heureux, même en n'ayant pas toutes les choses du monde. L'amour, la tendresse, la gentillesse de Dieu, ça nous donne beaucoup plus. Donc entrons dans le repos de Dieu. Sortons sans crainte et regardons dans la bonne direction. C'est la présence de Dieu qui nous rassure, comme dans le psaume 23, à condition d'entrer dans son repos en le laissant diriger nos vies. C'est ainsi que Ruth et Naomi vont passer de la bénédiction à celui qui bénit. Ruth a été avec les servantes. Et Noémie sait que les bénédictions ne suffisent pas, mais qu'il faut aller plus loin. Donc, elle va mettre en place une nouvelle stratégie. Et je vais raconter une petite histoire de stratégie. C'est l'histoire de vendeuse qui avait le droit de prendre tout ce qu'elle voulait dans un magasin parce que c'était l'anniversaire du fils du patron. Et il y en a une qui ne bougeait pas alors que toutes les autres s'affairaient et se chargeaient les bras. Et puis le patron s'est approché, lui a dit « Mais tu prends rien toi ?» Elle lui a dit « Moi, je voudrais votre fils. » Parce qu'elle savait qu'en épousant le fils, elle aurait tout le magasin. Vous avez tout pleinement en Christ. Et il y en a qui veulent seulement les bénédictions. Si tu veux mon fils, tu auras le magasin avec et les richesses en abondance. Du chapitre 3 au chapitre 4, c'est le mot rachat qui est employé 23 fois. C'est pareil que le rédempteur. Pareil que dans le livre d'Ésaïe, et qu'on retrouvera d'ailleurs 31 fois dans le livre du Lévitique, le livre sur les lois et les sacrifices. La rédemption, c'est le thème essentiel du livre de Ruth. Job, malgré toutes les difficultés vécues, il a perdu tous ses biens, ses enfants en un seul jour. Il a été malade, en crevé, mais il pouvait dire « Je sais que mon rédempteur est vivant ». La loi sur le rachat du Deutéronome 25 est une loi sociale et économique. Elle vise la solidarité entre les membres d'une famille, d'un peuple, et évite l'extinction de la lignée. Le beau-frère de la veuve doit épouser cette femme pour assurer une descendance. Le parent qui avait droit de rachat avait obligation de protéger les intérêts de la famille et du clan. La liberté de chacun, ses biens, sa postérité. Et ce racheteur protecteur avait le droit de donner un héritier à quelqu'un qui était mort sans enfant. C'était un devoir. Il devait aussi prendre en charge une propriété en danger d'être vendue en dehors du groupe familial. Et le chapitre 4 montre clairement comment ces deux obligations jouent un rôle important dans l'histoire de Ruth. On pense que Boaz passait la nuit sur l'air pour protéger sa récolte d'éventuels voleurs. Noémie va donner un conseil à sa belle-fille. Elle va lui dire « Lave-toi pour être plus séduisante. Fais-toi propre, arrange tes cheveux. Être chrétien, ça ne veut pas dire se laisser aller. Dieu nous arrête sur des choses très concrètes. Et très souvent, on néglige le corps, la création et le créateur. Comme si toutes les choses merveilleuses liées au corps appartenaient à un autre Dieu. Fais-toi belle. » Alors, il ne s'agit pas de tomber dans le travers contraire, mais d'écouter le Seigneur. Oint-toi. Je pense à Esther, un peu de parfum. Réapprenons à entendre les textes bibliques dans leur réalité. Donc, si je veux trouver un époux, je dois m'arranger. Esther s'est donc fait belle pour plaire au roi. Elle a passé 6 mois à se masser avec une huile pour être présentable, parce qu'elle faisait partie d'un harem, et puis les 6 autres mois à se passer un autre produit. Et elle doit descendre dans l'air, parce que Dieu est en bas, et que c'est en s'abaissant qu'on retrouve Dieu. Si tu veux rencontrer Boaz, si tu veux trouver plus que les petites et grandes bénédictions, alors il faut descendre dans l'air, dans le pressoir, là où on matraque l'orge. Et il y en a qui voudraient rencontrer le Seigneur dans les lieux célestes avec les anges, les harpes. Si nous voulons du vin plutôt que du raisin, il faut accepter de descendre dans l'air et de mourir. Le grain doit mourir pour porter beaucoup de fruits. Où sommes-nous? Encore dans le pays de Moab? Sommes-nous allés plus loin dans le pressoir, dans l'air? Ruth avait senti l'amour de Boaz, c'est pour ça qu'elle est descendue dans l'air. Et Jésus, lui, est déjà descendu dans ce pressoir. Il nous dit « J'y suis déjà ». Il nous précède dans la souffrance. Il est l'homme de douleur habitué à la souffrance. Et c'est en souffrant et en mourant qu'on devient serviteur de Dieu. Savoir dire non à soi-même. C'est ce qui nous sauve, c'est la présence du ressuscité dans le pressoir. Ça me rappelle aussi les 3 jeunes hommes dans la fournaise, dans le livre de Daniel au chapitre 3. Ils étaient dans le feu et tout à coup ils ont vu un 4e homme. Donc c'est en mourant qu'on parvient à la vie éternelle. Ruth et Boaz sont donc dans l'air et elles se couchent à ses pieds. Alors être couché à ses pieds, ce n'est pas une avance sexuelle, c'était un geste symbolique reconnu. À l'époque, elle demandait sa protection. Et il lui dit, ma fille, comme il dirait, chère jeune femme, pour entrer dans le lieu saint, nous avons besoin que nos yeux soient purifiés. C'est vrai que nous sommes dans un monde de pleine impureté, où le sexe règne. Salon de l'érotisme, Internet, n'en parlons pas. Eh bien, que Dieu nous fasse retrouver la beauté de l'amour, de quelqu'un qui ne couche pas avec quelqu'un, mais qui soit prêt à se coucher aux pieds de quelqu'un. On a besoin de retrouver la beauté de l'amour. Et c'est important d'entendre ce que lui-même dira. La maturité commence quand Boaz peut nous parler, quand nous entendons ce que Jésus veut nous dire au travers de la parole de Dieu. Et les femmes saintes de la Bible savent entendre la voix du Père. Ruth va faire ce que Noémie lui conseille. Et Boaz va poser la question « Qui es-tu ?» au verset 9 du chapitre 3. Elle répondit « Je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton vêtement sur moi, puisque tu es rédempteur. » Qui es-tu? Avant de nous bénir, Dieu pose toujours cette question. Et je dois oser dire à Dieu qui je suis. Et quand Ruth dit « Je suis Ruth, ta servante, tu as droit de rachat », elle devient une autre personne. Le Saint-Esprit nous rend vrai et on ne peut pas tricher avec Dieu. À partir de là, on pourrait dire comme titre « Jusqu'au bout avec Jésus ». Ruth a appris, petit à petit, à découvrir la gentillesse de Boaz, ses bénédictions, et ça a créé le désir d'être à lui. Même dans le pressoir, elle est prête à le rejoindre. La loi sur le droit de rachat se trouve en Deutéronome 25 et Lévitique 25. Un frère devait épouser la femme qui lui donnait un enfant pour que le nom subsiste et que les terrains restent dans la famille. Jésus est venu nous racheter. Nous voulons être rachetés par lui. Et on ne veut pas seulement sa bénédiction ou ses bienfaits, mais on désire Jésus et s'abandonner à lui et s'étendre à ses pieds. Tu es rédempteur, tu es protecteur. Ça me rappelle un passage d'un poème de Victor Hugo dans La Légende des siècles. On dit que Victor Hugo avait trouvé une Bible dans un grenier et puis il a lu des passages de la Bible et ça l'a inspiré. Et voici ce qu'il écrit. Ça s'appelle « Boaz endormi ». Les femmes regardaient Boaz plus qu'un jeune homme, car le jeune homme est beau, mais le vieillard est grand. Et l'on voit de la flamme aux yeux des jeunes gens, mais dans l'œil du vieillard, on voit de la lumière. Où cherchons-nous notre bonheur, notre protection, la vraie richesse, le vrai salut? Tout ça, c'est auprès de Dieu. La vraie vie est auprès de Jésus. Ruth n'a pas cherché auprès des jeunes gens. Où sont nos sources? Le psalmiste dit « Toutes mes sources sont en toi ». La parole de Dieu par ses enseignements nous procure du repos. Et les nouvelles modes peuvent nous tenter. Il y a toute une panoplie de propositions aujourd'hui pour être zen. Mais Jésus est la paix. Et il nous fait le cadeau merveilleux de sa paix qui surpasse toute intelligence. Aucune autre solution ne peut rivaliser avec lui. Et maintenant, qu'on s'est confié en lui, on n'a plus besoin d'avoir peur. Certains restent en chemin. Et Dieu ne peut pas les bénir parce qu'il y en a qui ont toujours besoin de faire quelque chose pour Dieu. Mais Dieu cherche des gens au travers de qui lui peut faire quelque chose. Et Boss va lire « L'Éternel est vivant ». Le secret de la maîtrise de Boss, il est là. Le secret de la maîtrise de soi. Pour lui, l'Éternel doit être présent. Cet événement qui se passe dans la nuit loin des autres, Dieu le voit. Et c'est quand nous ne sommes pas sous le regard des autres que Jésus voudrait nous aider à remporter la victoire. Souvenez-vous de Joseph tout seul en captivité. Il a été tenté, la femme s'est jetée sur lui, lui a arraché ses habits. Il a répondu, mais comment pourrais-je faire, est-ce que je peux faire ça à l'Éternel et à mon maître pour qui j'ai du respect? Ça doit être notre prière. Seigneur, deviens tellement vivant pour moi que je ne puisse plus prendre des chemins de désobéissance. Et le secret pour rester propre, il est là. Boaz trouve que Ruth est remarquable par sa loyauté. Elle s'est attachée à sa belle-mère et s'en est occupée. Et elle préfère épouser Boaz plutôt qu'un jeune homme afin d'épouser un racheteur, un protecteur, afin de donner une descendance officielle au premier mari défunt et à la famille de sa belle-mère. C'est une femme de valeur, capable, habile. Elle a su trouver à manger pour elle et sa belle-mère. Elle a une bonne réputation, elle est compétente, elle a une valeur morale. Mais voilà qu'il y a un obstacle de taille, il y a un autre rédempteur. N'aie pas peur, est-il écrit. Et combien de fois voyons-nous dans la Bible cette petite phrase, n'aie pas peur. Et voici que Ruth va partir, il est écrit au verset 14 avant qu'on puisse se reconnaître. Ce n'est pas tout à fait le moment encore. Boaz souhaite protéger Ruth de deux dangers, c'est un homme prévenant. Pour ne pas laisser penser à mal, elle part avant l'aube, afin que personne ne la reconnaisse et ne salisse sa réputation. Et puis, il y avait peut-être aussi des gens ivres, protection physique, morale, parce que ce n'était pas le travail des femmes d'être dans l'air, on aurait pu croire qu'elles se prostituaient. Bref, dans cette histoire, il n'y a rien de sexuel. Et Boaz fait le serment de l'aider si le proche parent n'utilise pas son droit. Au fur et à mesure que nous avançons dans la lecture, Ruth est de plus en plus considérée. Au chapitre 1, elle est accueillie par Noémie. Au chapitre 2, selon Boaz, elle est fille d'Abraham. Et au chapitre 3, elle est femme de valeur selon tout le monde. Elle n'est plus la Moabite. Boaz est engagé à épouser Ruth. Dieu va-t-il les abandonner? Ont-ils bien dormi cette nuit-là? Était-il inquiet? On peut dire oui, ils ont bien dormi. Mais non, ils n'étaient pas inquiets parce qu'ils avaient tout remis entre les mains de Dieu. Donc entrons dans le repos de Dieu. La démonstration de la foi, c'est de savoir attendre. Et Dieu va bénir cette démarche, c'est l'abondance, parce que le temps sont habillés et Boaz lui donne encore 6 mesures d'orge. Avec la conversion, on n'est pas arrivé au bout. Il faut cheminer avec le Seigneur jusqu'à ce qu'on apprenne à se reconnaître. Et la vérité est une personne, c'est Jésus. Jésus qui est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Au retour, eh bien, Noémie demande comment ça s'est passé. Boaz a donné de l'orge en quantité importante, peut-être 15 kilos. Il est déterminé à aider Ruth, puisqu'il s'est montré généreux. Il a fait une promesse, il a aidé concrètement, comme on doit le faire pour les autres. Jésus a nourri les foules. Matériel et spirituel, ça va ensemble. Et peut-être que Noémie a remarqué un changement. Le maître est passé. Il y a quelque chose de plus dans sa vie. Il faut pouvoir raconter tout ce qu'il a fait pour elle. Et si je peux témoigner, si je peux tout raconter publiquement, sans honte, sans rien cacher, alors c'est clair. Cette vie en abondance, c'est aussi le psaume 23 qui dit « Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde ». On ne revient jamais à vide avec Dieu. Et Ruth est revenue vraiment pleine. Reste ici, voici ce qu'il est dit à Ruth. Jésus a donné sa vie pour nous sauver, pour qu'on puisse retrouver notre dignité. Et il ne se donnera pas de repos avant d'achever l'œuvre qu'il a commencée pour nous. Et il y en a dans l'église qui courent comme si l'église dépendait d'eux. Sachons entrer dans le repos de Dieu, je le répète. Au chapitre 4, il y a des témoins. À l'époque, c'était 10. Selon le Nouveau Testament, c'est 2 ou 3. Mais c'est une procédure légale qui va commencer. On est avec les notables de la ville, c'est-à-dire les responsables des affaires juridiques et locales, des personnes de tout âge. Nous, on cherche souvent divers moyens de salut avant de trouver Jésus, divers moyens de rachat. On peut trouver dans d'autres religions pour surmonter les difficultés. Yoga, méditation transcendantale. Mais un seul peut me racheter, c'est Jésus, le chemin, la vérité et la vie, qui voit là où je suis, là où j'en suis, et qui veut me donner cette vie abondante. Il est parlé du Lévira, que l'on retrouve en Genèse 38 et Deutéronome 25. Alors chaque fois que se termine un chapitre dans ce livre, il y a un mais, encore un obstacle. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et ce coup-ci, c'est un obstacle de taille, parce qu'il y a un autre rédempteur qui est prioritaire avant Boz. Mais ça n'empêche pas quand même Boz de dire, eh bien, si lui ne l'épouse pas, moi je le ferai. Noémie cherche à confier une portion de terrain de son mari à un protecteur. Et par hasard, l'autre vient passer par là. Ça tombe bien, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Et les choses se mettent en place toutes seules, comme il a prévu. Noémie et Boz ne se sont pas parlé. Mais Boz est habile et commence par ça. Il n'est pas question de Ruth, mais de Noémie. Noémie ne peut plus assurer le patrimoine. Il n'est pas question de vendre le terrain. Et dans la culture de l'époque, s'engager pour ce lopin de terre, c'est accepter de le prendre en charge comme protecteur. C'est prendre soin d'un bien familial pour des personnes qui n'ont plus d'appui familial. C'est le devoir du racheteur. Tu es le premier à devoir t'en occuper. Boz est malin. C'est une entrée en matière pour aborder le sujet du mariage. L'autre, il est bien d'accord pour le champ, mais on va voir ce qu'il a en tête si c'est désintéressé. Et il dit qu'il ne peut pas prendre en charge ce champ. Il ne peut pas épouser Ruth. Économiquement parlant, c'était trop lourd pour lui. En effet, la propriété du mort devenait celle de la veuve et de l'enfant qu'elle aurait eu avant celle du racheteur. Et de cette manière, le mort pouvait se survivre lui-même par ce fils. Donc le champ n'était pas pour le racheteur, mais il était gardé en réserve pour le fils de la veuve qui était considéré juridiquement comme le fils du défunt et pas du nouveau mari. En accomplissant son devoir, le racheteur n'augmentait pas son patrimoine, il le diminuait en privant ses autres enfants d'une part d'héritage. Il voulait bien du champ, mais pas de la femme. Cette histoire a lieu il y a très longtemps et cette pratique n'existait plus au moment où le livre a été écrit. Et devant témoin, Boz acquiert tout ce qui appartenait à Elimelech. Et en plus, il prend une femme non israélite pour que la propriété du champ reste de la famille du défunt et qu'il y ait des descendants pour perpétuer son nom. Boz lui-même est issu d'une femme cananéenne intégrée dans le peuple de Dieu, mais il est attaché aux traditions d'Israël. Et la réponse, déjà, c'est une bénédiction qui est encore courante en Orient. Devient puissant, riche, reconnu. Rachel et Léa sont mentionnées parce qu'elles ont bâti la maison d'Israël. C'est une expression forte, une image énorme pour une étrangère de Moab. Bâtir une maison, c'est construire une descendance. Et l'amour de Ruth et de Boz est associé à la naissance des 12 tribus. Rachel est enterrée à Bethléem. Puis il est mentionné la maison de Pérez que Tamar donna à Judas. Vous vous souvenez, Judas, le frère qui a eu l'idée de vendre Joseph, il va épouser une Cananéenne. Il a 3 fils. Le premier épouse Tamar, mais il meurt. Le deuxième doit l'épouser. Mais il préfère sauter du trait à marche que de lui donner une descendance. Et Dieu le punit de mort. Judas ne donne pas son dernier fils à Tamar. Pour ne pas être abandonnée et humiliée, elle va se déguiser en prostituée. Judas couche avec elle et en attendant le paiement, lui demande les insignes de la famille. Il tombe enceinte et lui prouve qu'il est le père de l'enfant. La ruse et l'acharnement de Tamar pour faire respecter la loi de Dieu vont faire qu'elle est mentionnée dans la généalogie de Jésus. Et maintenant que chacun a pris sa responsabilité, eh bien Ruth épouse Boz, et c'est la protection concrétisée dans le mariage. Et Dieu est tellement respectueux qu'il vient vers nous et rend notre vie fructueuse. Seulement lorsque nous laissons tomber tous les autres moyens de salut que nous venons, par la grâce. Et pendant toutes ces années, elle n'a pas eu d'enfant. Dans son pays, elle n'a pas porté de fruit. Mais maintenant, sa vie porte du fruit. Elle a un fils. Et elle peut dire « Dieu est mon roi ». C'était le nom de son premier mari. Dieu n'est pas menteur. Et quelquefois, on regarde notre propre vie. Et on a envie de dire « Elle est stérile ». Et on ne voit pas les fruits du Saint-Esprit. Mais même si ma vie a longtemps été stérile, ça ne veut pas dire que Dieu a dit son dernier mot. Avec Dieu, le meilleur est encore devant nous. Le vin que Jésus a fait à la fin du mariage à Cana vaut mieux que celui du début. les fins sont meilleures que les débuts. Donc si on dit ma vie est stérile, le Seigneur peut dire comme Élisabeth qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle est dans son sixième mois. Et nous avons des versets 13 à 17, la conclusion du livre. Les femmes bénissent Noémie, le Seigneur ne t'a pas laissé sans protecteur. Noémie a retrouvé ses droits de propriété. Ruth et Boaz se marient, la grossesse évoquée rappelle celle que Noémie ne pouvait plus avoir. Et on voit des paroles de joie, de reconnaissance. Les femmes parlent de manière contradictoire à ce que Noémie avait dit quand elle était arrivée, affligée, démoralisée, abattue et vide. Ici, c'est un vocabulaire de louange. Et cet enfant, eh bien Dieu prendra soin de toi avec cet enfant. Il te protégera dans ta vieillesse. Ta belle-fille t'aime plus que cet fils. Comble de bénédictions en Israël. Et l'affection est réciproque. Elle vaut mieux pour toi que de nombreux fils. Ça nous fait penser aussi à Siméon qui prend Jésus dans ses bras et qui dit « Maintenant, je peux partir en paix, car mes yeux ont vu ton salut. » Le prophète Joël aussi disait « Je te rendrai les années que les sauterelles ont dévorées. » Dieu comblera les années perdues. C'est une espérance formidable. Et Noémie serre l'enfant contre son cœur. Elle prend soin de lui. Elle est sa nourrice, c'est-à-dire la personne la plus proche. Et il y a une espérance pour Ruth, mais aussi pour Noémie, c'est-à-dire Israël. La liste généalogique est importante, mais elle aboutit à David. Dans la lignée de Boaz, il y a Tamar, Rahab, puis Ruth, trois étrangères en somme. Obed signifie « serviteur de l'Éternel ». Il sera le grand-père de David et Ruth sera l'arrière-grand-mère de David. Pour conclure, quelques applications de ce livre de Ruth dans notre vie. La foi de Ruth se voit par des actes concrets. Elle a obéi à sa foi et à sa conscience en agissant avec courage et générosité, et Dieu a fait le reste. Ce n'est pas parce que Dieu travaille dans l'ombre qu'il ne fait rien. L'exemple de ces femmes nous montre que c'est dans notre vie quotidienne que Dieu veut se manifester. Noémie se préoccupe des besoins de sa belle-fille avant les siens. Les relations de Ruth et Boaz sont marquées par le respect et l'estime mutuelle. Il agit avec discrétion. Ruth a su rester à sa place, comme un chaînon indispensable pour permettre la naissance du Messie. Pour qui serons-nous un maillon dans cette immense chaîne qui introduit les gens dans l'éternité avec Dieu? Ces femmes, au travers de la souffrance, au milieu du creuset, ont retrouvé l'espoir. Il fallait avoir les mains vides. Ne plus rien à faire par elles-mêmes pour que Dieu puisse les combler. Il y a des Ruth et des Noémie autour de nous. Peut-être même qu'on peut se reconnaître. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas fini. Il y a une espérance, parce que la foi est l'ancre de notre âme. Dieu peut faire de nous des êtres complets si nous glanons dans le champ de Dieu. Il y a sept mots qui dominent tout ce livre de Ruth. Sept mots, mots de plénitude, que Dieu nous promet si nous glanons dans le champ de Dieu, eh bien nous trouverons l'abondance, la protection, la plénitude, la sécurité, la tranquillité, la bénédiction et la rédemption. Dieu fait de nous des êtres complets. Il nous fait passer du vide à l'abondance. Que l'exemple de Noémie et Ruth nous encourage et nous conduise à lui présenter nos mains vides, parce qu'il est le pain de vie et il saura nous donner au-delà de nos espérances.